le vent siffle sur la steppe. Sirocco l'été, bise l'hiver. Dans cette steppe, plate comme planche, jamais il n'est rien venu. Et encore moins entre quatre réseaux de barbelés. Le blé, ça ne pousse qu'en miche à la panetterie. Et l'avoine se fauche seulement chez les magasiniers. Échine-toi tant que le cœur t'en dit, et même à t'étouffer, de cette terre-là tu ne tireras jamais nourriture. Jamais tu n'auras à manger que de la main des chefs. Et même ce qu'ils donnent, tu l'auras jamais tout. À cause des cuistanciers, des goujats et des planqués. On te vole au chantier. On te vole dans le camp. Avant, on t'avait déjà volé chez le magasinier. Et pas un de tous ceux qui volent n'a jamais attrapé un tour de rein. À toi la pioche, mon ami. Prends ce qu'on donne et tire-toi du guichet. Qui peut autrui rogner ne va point l'épargner. Quand Pavlo, avec Tchoukov et Obchik, entrèrent dans le réfectoire, on ne voyait, à force de dos à côté, ni les bancs, ni les tables courtaudes. Les uns mangeaient assis, la plupart debout. La brigade 82, celle qui avait pioché au froid tout le matin, avait pris les places la première, sitôt le coup de sirène, et, à présent qu'elle avait mangé, elle ne voulait plus s'en aller. Où c'est qu'elle aurait pu se réchauffer? Elle se faisait agonir par un chacun et s'en battait l'œil, tout, plutôt que se retrouver au froid. Pavlo et Tchoukov se creusèrent un trou dans le tas. Ils étaient arrivés au bon moment. Une brigade touchait ses portions et il n'y en avait qu'une après dans la file avec des sous-brigadiers attendant devant le guichet. Les autres, donc, passeraient après nous. « Envoyez des écuelles !» crie le cuisinier depuis son guichet. On les lui fait passer dans la salle et Tchoukov aussi en ramasse pour les lui passer. Mais pas pour toucher une portion de rabiot, histoire que ça roule plus vite. Derrière la cloison, des goujats lavent la vaisselle, eux aussi contre Cacha. Le sous-brigadier qui est avant Pavlo réceptionne déjà ses portions et Pavlo crie par-dessus les têtes « Obchik ! Présent !» Obchik détale. Le principal, c'est que la cacha d'aujourd'hui, c'est de la bonne. Et même de la meilleure. De l'avoine. C'est rare. D'habitude, c'est surtout du sorgho, jusqu'à des deux fois par jour, un peu de farine avec beaucoup d'eau. Alors que la cacha d'avoine, ce qui la fait nourrissante et précieuse, c'est le gluant entre les mains. Quand il était jeune, Tchoukov kissait les brassées d'avoine qu'il apportait aux chevaux. Jamais il ne se serait figuré qu'un jour, ça lui donnerait à rêver une poignée d'avoine. « Les écuelles !» qu'on crie au guichet. Ça va être le tour de la 104. Le sous-brigadier de devant a quitté le guichet après avoir reçu double louché, ce qu'on appelle la portion brigadière. C'est encore sur le compte de la main-d'œuvre. Et personne n'y trouve non plus à redire. Chaque brigadier y a droit, qu'il mange sa deuxième ration tout seul ou qu'il la refile à son adjoint. Turine, lui, la donne à Pavlo. Le travail de Tchoukov commence. Il se fait de la place environ deux claquants et en demandant bien poliment à un manouvrier de se pousser. Comme ça, il a la place pour une douzaine d'écuelles. À condition qu'elles soient bord à bord, on peut mettre dessus un autre étage de 6 et puis tout en haut un troisième, de 2. À présent, il va les prendre des mains de Pavlo en répétant le compte et en faisant très attention. Attention que quelqu'un d'une autre brigade ne pique pas d'écuelle à eux sur la table et attention, crainte de renverser, qu'on ne le cogne pas. Sans compter que, sur les bancs, il y en a qui s'en vont après avoir mangé et d'autres qui s'assoient pour manger, de sorte qu'on doit tout le temps garder les yeux en face des trous. C'est-il dans leur écuelle qu'ils mangent ou est-ce qu'ils ne maraudent point les nôtres? Le cuistot compte derrière son guichet. 2, 4, 6. Il serre des deux mains à la fois. C'est plus facile, avec une main, il pourrait se tromper. Pavlo recompte dans son ukrainien. Vi, chortiri, chist. Façon à eux de dire pareil. Il le dit pas très fort, sans bouger du guichet, en remettant de suite les écuelles à Tchoukov par deux et Tchoukov les va poser sur la table. Lui ne répète pas les chiffres. Il sait mieux compter que tous. 8, 10. Pourquoi Obchik n'amène pas la brigade? 12, 14. Il n'y a plus d'écuelles à la cuisine. Par-dessus la tête et les épaules de Pavlo, Tchoukov voit les mains du cuisinier. Elles ont posé deux écuelles sur la tablette, mais sans les lâcher, avec un air de réfléchir. Le cuisinier a dû se retourner pour engueuler les goujats de la plonge. Là-dessus, on lui passe par le guichet une pile d'écuelles vides, et pour les faire suivre derrière, il lâche les pleines. Tchoukov laisse aussitôt son tas d'écuelles sur la table, renjambe le banc, empoigne les deux pleines sur la tablette et, pas très haut, avec l'air de compter pour Pavlo, mais pas pour le cuisinier, il fait 14.
« Halte ! Qu'est-ce que tu chapardes ?»
braille le cuistancier.
« Notre brigade ! Il est de notre brigade !» explique Pavlo.
« Peut-être bien qu'il en est, mais me perdez pas dans mes comptes !»
Pavlo hausse les épaules.
« 14.
Lui, bien sûr, il n'aurait jamais fauché deux écuelles. Un sous-brigadier, ça se doit à son rang. Mais du moment qu'il répète après Tchoukov, il pourra toujours lui faire retomber la faute dessus.
« 14. Mais j'ai déjà dit 14. Brame le cuisinier !»
Tchoukov gueule. « Tu l'as dit, bien sûr, mais tu les as pas donnés. Tu gardais les mains dessus. Viens compter si tu me crois pas. Regarde-les toutes sur la table. » Il beuglait tout ce qu'il savait, Tchoukov, mais comme ça ne l'empêchait pas d'avoir aperçu les deux Estoniens qui fonçaient dans la presse pour le rejoindre, il leur refila les deux écuelles maraudées. Et il trouva même le temps de revenir jeter un coup d'œil sur la table, histoire de se rendre compte si rien n'y avait bougé de place et si les voisins ne s'étaient pas avisés de rien piquer. Parce qu'ils auraient pu. Et comment ? Sa face d'aloyau complètement sortie du guichet, le cuisinier demanda d'un ton méchant « Où elles sont, tes écuelles ?»«
Mais s'il te plaît, regarde !» brailla Tchoukov. « Écarte-toi un peu, mon bon ami, que tu l'empêches !»
Ça, c'était pour un type qu'il venait de pousser.
« Les voilà, tes deux !»
Il soulevait à bout de bras la paire d'écuelles d'en haut.
« Dessous, t'as qu'à compter. 3 rangs de 4, pas une de plus !»« Ta brigade n'est pas arrivée ?»
redemanda le cuistot. Il se méfiait, manquant de place pour bien voir, à cause que le guichet, on l'a fait étroit, histoire que ceux du réfectoire ne puissent pas non plus voir ce qui reste dans sa marmite. Pavlo secoua la tête.
« Que non, mon pauvre, elle n'est point rendue encore, la brigade. »« Foutre de Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces manières d'immobiliser la vaisselle quand la brigade n'est pas là ?»
hurla le cuisinier qui devenait enragé.
« La voilà ! La voilà ! La voilà ! » clama Tchoukov.
Le commandant, il se croit toujours sur sa passerelle, rugissait depuis la porte.
« Dégagez la passe ! Vous avez mangé ? Sortez et place aux autres !»
Le cuisinier marronna encore un peu en dedans, puis il se redressa et on revit ses deux mains sur la tablette.
« 16, 18. »
Arrivé à la dernière, qui était double portion de brigadier, il annonça
« 23e est fini. Au suivant !»
La brigade avait foncé dans la presse. Pavlo fit passer les écuelles quelques-unes par-dessus la tête des gars assis à l'autre table. L'été, on tenait à 5 sur le banc. Mais vu qu'à cette époque de l'année on s'habille épais, c'est tout juste si 4 s'y plaçaient. Et encore, les coudes n'avaient guère de jeu pour remuer les cuillères. Du moment que, sur les deux portions en rabiot, il lui en reviendrait sûrement une, Tchoukov, sans perdre de temps, s'occupa de la sienne, celle par droit de nature. Ce pourquoi, ayant ramené le genou droit contre le ventre, il tira de la tige de sa botte la cuillère d'oustijma, se décoiffa, logea son bonnet sous l'aisselle gauche et attaqua délicatement la cacha par les bords. Le moment qui venait, il aurait fallu n'en rien distraire pour autre chose que manger, dépiauter le fond de l'écuelle de sa maigre pagnasse d'avoine, être bien soigneux pour s'engouler chaque cuillerée dans la bouche et bien soigneux aussi de rouler chacune sur sa langue. Le malheur est que Tchoukov devait se presser, histoire que Pavlo voit bien qu'il avait fini et lui propose une des écuelles chapardées. Or, il y avait Fetioukov qui compliquait la chose. Arrivé de compagnie avec les Estoniens, et ayant repéré du premier coup qu'on flouait le cuistot de deux parts, il s'était mis juste en face de Pavlo et mangeait debout, l'œil sur les 4 écuelles pas distribuées, histoire de montrer au sous-brigadier qu'il serait bon de lui en donner aussi, au moins une demi, si pas une entière. Pavlo, qui est jeune et de teint culotté, s'en voyait bien tranquille sa double louchée et, à sa figure, on ne pouvait pas savoir. Est-ce qu'il voyait qu'il y avait quelqu'un près de lui ?
Et est-ce qu'il se rappelait même qu'il y avait deux portions en surnombre ?
Tchoukov avait fini sa cacha. Et de ce qu'il s'était par avance ouvert le pertuis de l'estomac pour deux rations, une seule n'était pas arrivée à le lui remplir, contrairement à ce que lui faisait toujours l'avoine. Il plongea la main dans sa poche de poitrine, tira du chiffon blanc le demi-rond de croûte qui n'avait pas gelé et s'appliqua à essuyer tout ce qui pouvait bien rester de gluant, d'abord au fond et puis sur le tour des bords. Quand il en eut suffisamment ramassé, il lécha sa croûte d'un coup de langue et recommença à essuyer menu tant que l'écuelle ne fut point récurée, à croire qu'elle revenait de la plonge, sauf qu'elle ne brillait pas tout à fait si bien. Il la passa donc, par-dessus son épaule, à un goujat, et resta assis, le bonnet sous le bras. Il avait beau les avoir maraudés en personne, les deux écuelles. C'était le sous-brigadier qui en restait le maître. Pavlo le fit encore languir un peu, le temps de finir sa propre écuelle. Mais lui s'en nettoyait à fond, juste en grattant avec sa cuillère, qu'il lécha bien, après, et remit dans sa botte. Puis il fit le signe de la croix et, comme il n'avait pas beaucoup de jeu pour remuer, caressa deux des quatre écuelles restantes, façon de montrer qu'il les laissait à Tchoukov. « Ivan Denisovitch, qu'il fit, de deux vous porterez l'une à César et garderez l'autre pour soi. » Tchoukov se rappelait bien qu'il fallait apporter une écuelle au bureau pour César. César, il ne s'abaissait jamais à aller au réfectoire, pas plus au chantier qu'au camp. Mais il avait beau se rappeler, Tchoukov, au moment où Pavlo lui avait montré les deux écuelles, son cœur avait ralenti net, rien que de l'idée que le sous-brigadier les lui laissait peut-être, les deux, pour lui tout seul. Pavlo s'étant expliqué, le cœur se remit au pas. Tchoukov se pencha sur la portion qui lui revenait par droite prise et mangea, en homme posé, le dos trop fier pour sentir les ramponneaux, vu que les brigades n'arrêtaient pas d'entrer, avec tout de même un rien de chagrin. Est-ce qu'on n'allait pas donner le second rabiot à Fetioukov ? Parce que Fetioukov, s'il a bien trop la venette pour jamais piquer quelque chose, question mendigotage, il est salement fort. Or, non loin d'eux, Bouinovski s'était attablé. Sa cacha, il l'avait depuis longtemps finie. Et, ignorant que la brigade s'était procurée du rabiot, il ne regardait même pas du côté du sous-brigadier pour voir combien il restait d'écuelles. Il s'abandonnait à la volupté d'avoir chaud, incapable de se lever, de sortir en plein vent ou d'aller se mettre à l'abri glacial de la salle des machines. Si bien que, n'ayant plus aucun droit à la place qu'il occupait, il gênait les nouveaux arrivés exactement de la même façon que le gênaient ceux qu'il avait chassés 5 minutes plus tôt de sa voix de bronze. Depuis peu dans un camp, il n'avait à peu près pas d'expérience pour les travaux de force. Or, des minutes comme celle-ci, sauf qu'il ne le savait pas, ça compte dans une existence comme la sienne. Certes, l'officier de marine habitué à commander haut se métamorphosait alors en un pauvre zec soucieux d'économiser ses forces. Mais il n'y avait que cette économie qui lui permettrait de survivre à 25 ans de réclusion pénale. On lui gueulait après. On lui cognait le dos pour qu'il cède la place. Pavlo l'appela. « Commandant ! Hé ! Commandant ! » Bouinovski se secoua, juste comme si on le réveillait, et puis se retourna. Pavlo lui tendait une écuelle, sans seulement lui demander s'il en voulait. Le commandant en eut les sourcils qui grimpèrent de 3 centimètres, et il regardait la cacha avec des yeux à croire qu'il n'avait jamais vu de miracle. Mais Pavlo le rassura. « Prenez, qu'il dit, prenez, commandant. » Après quoi il s'en alla en emportant la dernière écuelle, qui était pour Turin. Un sourire d'humble gratitude détendit la bouche gercée de ce capitaine de frégate qui avait navigué sur toutes les mers d'Europe et fait si souvent la route de l'Arctique. Il se pencha, heureux, sur cette bouillie clairette, pas même une pleine louche, sans un atome de graisse, et qui n'était que de l'avoine et de l'eau. Fetioukov eut un sale regard. C'était pour le commandant, pour Tchoukov aussi. Et il fila aussi. Mais Tchoukov trouvait très bien que le commandant ait eu du rab. Le commandant, il apprendrait à vivre lui aussi. Question de temps. Seulement, au jour d'aujourd'hui, il ne savait pas encore. Tchoukov avait un petit espoir. Et si César aussi lui donnait sa cacha? Mais César ne la donnerait pas. Depuis 15 jours, il n'avait pas eu de colis. Pour la seconde cacha, Tchoukov fit de même que pour la première. L'ayant mangée toute, il cura le fond et les bords de l'écuelle avec sa croûte de pain, à petits coups, en léchant la croûte à chaque coup. Après quoi, il mangea aussi la croûte, prit la cacha de César, qui était bien refroidie, et s'en alla. « C'est pour le bureau !» qu'il expliqua avec un marron dans les côtes du goujat de faction qui ne voulait pas le laisser sortir avec une écuelle. Le bureau, c'était une isba en poutre près du poste de garde. La cheminée dégueulait de la fumée ni plus ni moins que le matin. Il y avait un préposé qui s'occupait du poêle. Il servait aussi de planton et, pour ça, on lui comptait une tâche à la journée. D'ailleurs, le bureau, on ne lui plaignait jamais les copeaux, ni le petit bois.